Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Canal Académie a le plaisir de vous inviter à découvrir ou à mieux connaître le parcours d'un poète casqué. Nous vous expliquerons tout à l'heure à quoi correspond cette appellation. Canal Académie reçoit en effet aujourd'hui, pour un nouveau Au fil des pages, Bruno Doucet. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Doucet. Donc écrivain, éditeur, poète, aujourd'hui directeur des éditions Séguère.
Oui, exactement.
Alors votre venue devant les micros de Canal Académie correspond aussi à un événement dans le monde de la poésie, une célébration annuelle. Je veux bien évidemment parler de la Semaine de la Poésie.
Oui, le Printemps des Poètes,
qui fête
cette année sa 11e édition.
11e édition, une véritable institution ?
C'est une institution qui prend de l'ampleur, qui gagne du terrain, ce qui est une chose vraiment formidable.
Alors, donc, pourquoi ? Comment, à qui s'adresse cet événement dans le monde de la poésie ?
Alors, pourquoi ? Pour renouer d'abord avec les forces vives de la poésie d'expression française, probablement après des années qui ont été quand même très difficiles. À qui s'adresse cette Semaine de la Poésie ? À tous, aux enfants, aux adultes, au lectorat de langue française, mais aussi à l'étranger, puisqu'aujourd'hui, le Printemps des Poètes essaime bien au-delà des frontières de l'Hexagone.
Comment se tenir informé des différentes manifestations ?
Il y a bien entendu un site, il suffit de taper Printemps des Poètes et on tombe immédiatement sur le site, sur Internet, et puis la presse annonce les événements qui auront lieu. Ce sont en France, pendant une quinzaine de jours, du 2 au 15 mars, des milliers, voire des dizaines de milliers de manifestations, certaines à toute petite échelle et puis d'autres au contraire très importantes, comme la soirée d'ouverture aux Folies Bergères, par exemple, ou une soirée que les éditions Segers organisent le 16 mars à l'INJA, Institut National des Jeunes Aveugles à Paris, boulevard des Invalides, métro du Roc, voilà.
Avec donc une pléiade de poètes qui seront
avec
là.
Avec d'innombrables poètes et une thématique qui a été retenue cette année. Elle s'intitule « En rire ». Elle est donc, le Printemps des Poètes sera consacré aux poèmes d'humour et au rire.
Ah oui.
Ce qui est formidable.
Tout à fait. Alors nous allons parcourir ensemble, Bruno Doucet, vos différentes expériences littéraires. Mais tout d'abord, en ouverture d'émission, je vous ai qualifié il y a quelques minutes de poète casqué. Alors d'où vient cette expression ? Rappelez-nous ce qu'elle veut dire.
Ah, c'est formidable. Je ne m'y attendais pas, mais cela mérite d'être évoqué. Poète casqué, c'était le titre d'une revue fondée par Pierre Segers en 1939, au moment où il a été réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale. En caserne, dans le sud de la France, il a immédiatement conscience de l'urgence que représente la mobilisation des poètes. Ce qu'il appellera par la suite la conspiration des poètes. Ces poètes qui avaient été très ébranlés quelques années auparavant par l'assassinat de Federico Garcia Lorca à Grenade au moment de la guerre d'Espagne. Et Pierre Segers crée cette revue, la revue PC, Poète casqué. C'est formidable. Et cette revue, dont Aragon sera l'un des premiers abonnés, va rassembler des textes provenant de tous les horizons, des poètes qui sont au combat, des poètes qui sont au front, bientôt, hélas, des poètes déportés, mais aussi des réfractaires à la guerre, etc. Voilà. C'est véritablement le début d'une aventure éditoriale inouïe, celle des éditions Segers, qui naîtront officiellement 4 ans plus tard, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Des poètes en résistance.
Des poètes en résistance, oui. Donc il est très simple de dire aujourd'hui que cette maison est née des valeurs de la résistance et de la libération.
Nous y reviendrons au cours de cette émission au fil des pages. Alors, revenons maintenant de façon chronologique sur votre parcours. Vous êtes né le 3 mai 1961 à Saint-Claude,
oui,
c'est dans le Jura.
Oui, dans le Jura, absolument.
Alors, après des études de lettres à Lyon et un mémoire de maîtrise sur le thème, vous allez nous expliquer, de la vitre dans la poésie contemporaine.
Ah oui, alors c'est un peu farfelu. Le thème de la vitre dans la poésie contemporaine.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire ?
Bon, j'ai réellement travaillé sur cette thématique. Je me suis rendu compte que ce thème était absolument essentiel. La vitre, la fenêtre, c'est le contraire du miroir. Le miroir, le narcissisme, Pensez tout simplement à cette littérature qui a fait du nombrilisme un genre littéraire à part entière. Eh bien, la vitre, c'est le contraire. C'est l'ouverture sur le monde, c'est le regard sur autrui. Et c'est cela qui m'a intéressé. Donc, au fond, c'est presque un travail sur la dimension orphique de la poésie. Orphée, vous savez, ce dieu qui descend aux enfers pour ramener Eurydice à la vie, c'est véritablement le regard sur l'autre.
Le passage entre les mondes.
Le passage entre les mondes, entre ici et ailleurs, entre passé et présent, voilà, exactement, entre le réel et entre la vie réelle et la vie rêvée.
La rencontre avec la poésie se fait à quel âge?
Poésie se fait très tôt.
C'est-à-dire, on peut parler de l'enfance?
Oui. Absolument. Pour ce qui concerne l'écriture, c'est un petit peu plus tardif. Vers l'âge de 10 ans, je traverse une période un petit peu difficile, marquée par des difficultés familiales, des deuils. J'ai besoin d'écrire ce que je ressens, ce que je vis. Et ce qui me vient immédiatement, ce n'est pas la poésie, c'est la forme romanesque. Je tente d'écrire des petits romans, mais j'ai des difficultés considérables à manier les temps verbaux. J'ai alors une dizaine d'années, à peine. Et puis surtout, je suis très très préoccupé par la question du « je » ou « il ». Si je dis « je », mais tout le monde va me reconnaître. Et si je dis « il », ne vais-je pas me perdre? Et devant ce dilemme, c'est un jour la poésie qui impose sa mystérieuse évidence.
Alors justement, comment est-ce qu'on voit apparaître cette sensibilité poétique?
Écoutez, pour moi, c'était tout simplement un poème qui est venu. Je dirais aujourd'hui exactement comme un duvet d'oiseau qui... René Char disait comme un duvet d'oiseau sur ma vitre en hiver. C'est exactement ce que j'ai ressenti à 10 ans, un poème qui s'est imposé. Je crois l'avoir encore en tête. C'était presque un haïku, ces petits poèmes japonais qui sont les flamants roses, une boule de plumes qui dort au clair de lune, oiseau étrange et beau. Voilà. Ce sont ces quelques vers qui me sont venus et le reste est arrivé ensuite.
C'est une forme de pensée particulière qui donne naissance à la poésie.
Cela mérite réflexion, mais il me semble que c'est la conscience très nette que la relation habituelle entre l'idée et le mot s'inverse. Je m'explique. On a toujours le sentiment que pour écrire, il faut avoir des idées, que les écrivains sont des gens qui pensent et qu'ils trouvent ensuite une forme adaptée à leur pensée. C'est ce qui peut-être prévaut pour les essayistes, hein, bien sûr. Mais avec la poésie, c'est exactement l'inverse qui se produit. Ce sont les mots qui arrivent et les idées viennent ensuite. Et en tout cas, dans la préadolescence, à cette période de ma vie, j'ai eu une conscience très, très claire de ce que m'apportait la poésie, c'est-à-dire une manière de résoudre les difficultés technique que présentait l'écriture narrative. Parce que la grammaire, l'orthographe, la mise en forme du texte, la ponctuation sont secondaires. Ce qui prévaut, c'est la transformation d'une émotion en expression. Que Valérie appelait à propos du lyrisme, il disait que c'est la transformation d'une émotion en exclamation ou en cri. Voilà. Donc il y a un langage de l'immédiateté.
En émotion, en charge émotion. Émotionnelle.
Oui,
le mot charge émotionnelle.
Oui, il y a une charge émotionnelle. Il y a ce que nous ressentons qui est...
Comme une note de musique?
C'est très proche de la musique. Je crois que la poésie relève de deux formes artistiques différentes, très complémentaires. D'un côté, la musique, parce qu'il y a en effet la musicalité du vers. On l'entendra peut-être tout à l'heure en lisant des poèmes. Les rimes, d'ailleurs... C'est tout à fait banal ce que je vais dire, mais nous le savons bien, la poésie est souvent faite pour être chantée et mise en musique. Ronsard a été, par exemple, interprété. Les poèmes de Léopold Sédar Senghor, aujourd'hui, sont accompagnés dans son écriture même. Il y a des poèmes écrits pour Cora et Balafon, etc. Donc, la poésie relève de la musique, mais elle relève aussi des arts visuels, de la peinture, des arts graphiques, parce qu'il y a... Songez aux calligrammes, ces poèmes réalisés par Apollinaire qui constituent des dessins. Et puis, songeons également à la capacité de la poésie à imager le réel. Nous parlons communément des images, les métaphores, les comparaisons. Donc voilà, la poésie, c'est cela, c'est un langage qui se trouve à la croisée des chemins, des arts graphiques et de la musique. Et puis, c'est aussi, par rapport à ce que nous voulons dire, une manière de faire entendre ce que les mots ne disent pas. C'est un langage sous le langage. Mais c'est un langage ouvert à de multiples interprétations possibles.
Donc, après des études de lettres, Bruno Doucet, c'était à Lyon.
Ah oui, alors, oui.
Vous passez le CAPES de lettres modernes, vous enseignez le français au lycée et en collège, et puis ensuite, c'est l'IUFM.
Alors, entre-temps, si vous le permettez, il y a une anecdote à raconter, parce que je crois qu'elle peut, pour nos jeunes auditeurs qui écrivent de la poésie, être assez intéressante. J'ai eu la chance d'envoyer quelques poèmes que j'avais écrits quand j'avais 15 ans, aux éditions Saint-Germain-des-Prés. Je n'étais jamais allé à Paris. Et j'ai reçu une lettre de Jean Orizet, qui est aujourd'hui un ami, me disant « Vos poèmes sont très beaux, mais il faudrait en envoyer non pas 5 ou 6, mais 50, 60. » Donc j'entreprends de composer des poèmes que je recopie sur des feuilles de papier canson. Parce que je
à quel âge
pas. J'avais 16 ans, 15-16 ans, j'étais en seconde. Et je reçois quelques mois plus tard une lettre me disant que une sélection de mes poèmes sera publiée dans les cahiers de Saint-Germain-des-Prés, dans le numéro 6 ou 7 des cahiers de Saint-Germain-des-Prés, parmi d'autres poètes contemporains. Bon, c'est absolument formidable. Je me fais une joie incroyable de cela. Et puis, j'attends la venue du livre, vraiment, comme on attend des choses absolument fabuleuses. Le livre ne parvient que 2 ans ou 3 ans plus tard.
Oh, c'est cruel, quand on a 16 ans.
Mais aujourd'hui, en tant qu'éditeur, je comprends bien cela. Et lorsque je reçois le livre, je suis alors étudiant en classe préparatoire à Lyon. Évidemment, j'ai mûri, mon écriture aussi. Et ce livre, que j'attends depuis tellement longtemps, me fait l'effet d'un boomerang qu'on ne rattrape pas dans la main, mais que l'on prend, si vous le permettez, en pleine figure. Je trouve que mes poèmes sont épouvantables et je m'inflige 10 années de travail sans publication. Et donc, j'entreprends des études de lettres, je deviens professeur.
Peut-on être son propre juge, Bruno Doucet ?
Non, je pense que c'est assez difficile. C'est assez difficile et on court un risque permanent de se tromper, de s'enthousiasmer trop fortement, et puis ensuite d'être déçu. Souvent, ce qui se passe, pour les jeunes auteurs, beaucoup me le confirment, vous savez, ce que l'on écrit ressemble à un soufflet que l'on a mis au four, qui monte, vous voyez ce que je veux dire. Et lorsqu'on le retire, si on le retire au mauvais moment, le soufflet dégringole, c'est une galette assez plate, et ce sentiment de la platitude, on l'a parfois au lendemain de ce que l'on écrit. Alors, je pense que toute ma vie d'écrivain consiste à apprendre à sortir le soufflé du four au bon moment et ne pas voir ce que j'écris, évidemment, retomber. Et cela passe par le regard de l'autre. Bien sûr, nous écrivons pour être lus et nous écrivons pour autrui. L'écriture n'a pas de sens pour moi sur une île déserte. Il y a tant de choses à faire dans ce monde que vraiment, ce serait très dommage. Et puis, la deuxième chose, cela passe par un niveau d'exigence accru. Voilà, il faut travailler. Il suffit de regarder les brouillons des grands écrivains, même Rimbaud, le plus précoce de nos poètes, pour se rendre compte que, comme le disait Baudelaire, il y a de l'inspiration, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de transpiration.
C'est cette adéquation entre travail et inspiration
qui
absolument. Est importante. Retirer le soufflet du four au bon moment. Donc, des affectations diverses professionnelles vous entraînent à enseigner successivement dans le Massif central, à Nice, en Normandie, en Champagne-Ardenne. Vous y séjournez dans tous ces lieux pendant une quinzaine d'années. Et là, j'ai lu que vous entreprenez presque malgré vous une carrière d'auteur d'ouvrages à caractère pédagogique. Alors, pourquoi ce presque malgré vous ? Et principalement, alors c'est chez Attier, Nathan, Retz, Gallimard. Et j'ai noté donc des études critiques consacrées à Marivaux, à Patrick Modiano, Jean-Marie Le Clézio, prix Nobel cette année, Francis Ponge, Claude Roy, Jean Tardieu. Et là, vous écrivez aussi une biographie romancée de Moïse pour les enfants. Alors, racontez-nous tout ça.
Oui, ça fait beaucoup de choses.
Ça fait beaucoup de choses.
Alors, pour prendre les choses dans le bon ordre, je dois dire que, étant jeune professeur, j'écris la nuit des nouvelles un peu fantastiques, marquées par la fascination qu'a toujours exercée sur moi le désert. Mais je ne connaissais pas alors le Sahara, et pourtant ce sont des nouvelles, on va dire, d'inspiration saharienne. J'écris ces nouvelles que je fais lire à des amis, et certains me disent c'est formidable, etc. Et dans le même temps, je travaille avec mes élèves, des élèves de première, donc qui présentent une liste au baccalauréat, vous savez. Je travaille sur la symbolique du désert, dans la littérature. Avec les orientalistes, Chateaubriand, Flaubert, Fromentin, Pierre Loti, mais aussi dans la littérature plus contemporaine, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Désert de Leclésio, qui m'a particulièrement marqué lorsque je l'ai lu. Et c'est ainsi que j'ai l'idée d'envoyer un projet éditorial à un éditeur que je ne connaissais pas, les éditions Attier, dans la collection Profil d'une œuvre. J'écris à Georges Descôtes, alors directeur de cette collection, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, mais ça je ne le savais pas encore. Je lui envoie une lettre en lui disant je ferais bien un petit livre de 80 pages sur la symbolique du désert dans la littérature. Je viens d'éprouver cette thématique avec mes élèves, c'est formidable, ça leur plaît, il y a des choses à dire. Et il me répond, écoutez, c'est une merveilleuse idée, mais elle rencontrera 200 lecteurs en France. Si vous avez un projet qui intéresse 2000 lecteurs, alors revenez me voir. Mais ce que je n'ai pas fait, évidemment. Mais lui ne m'a pas oublié, et peut-être un an et demi plus tard, il m'a téléphoné en me disant, nous bouclons la collection Itinéraire littéraire, qui est une collection d'ouvrages pédagogiques, un peu à la manière de Lagarde et Michard, mais génération plus moderne, et je vous réserve une place dans le dernier volume. Mais cette place était pratiquement imposée, c'est-à-dire qu'il voulait que je travaille sur Patrick Modiano. Je connaissais l'œuvre de Modiano, mais pas plus que cela, et j'ai accepté. Et donc j'ai rédigé ce chapitre, j'en ai rédigé d'autres. Puis ensuite, il m'a demandé de faire dans la collection Profil d'une œuvre un petit livre sur La Ronde de Nuit. Il m'a laissé le choix de l'œuvre de Modiano. J'ai choisi La Ronde de Nuit, qui est un roman incroyable. Et alors, je pensais n'écrire qu'un seul livre, mais j'en ai écrit, mon Dieu, 6 ou 7 dans la collection Profil d'une œuvre, des manuels scolaires. Puis ensuite, j'étais embarqué dans
une aventure. Ces travaux se sont enchaînés.
Ils se sont enchaînés chez plusieurs éditeurs, notamment par la suite aux éditions Nathan, puis aux éditions Retz, puis chez Gallimard, etc. Avec une liberté, voilà, très, très grande de ma part. J'y ai gardé beaucoup d'amitié avec les uns et les autres. Et nous en arrivons à Moïse, je crois que c'était peut-être en 2000, je ne sais même plus, 99-2000. J'ai écrit ce roman, cette biographie complètement romancée de Moïse, pour des raisons à la fois personnelles et puis, enfin, c'est un sujet qui m'intéressait. Oui.
Alors justement, ce travail de transmission, là, transmettre l'histoire de Moïse, parce que c'était une histoire qui vous intéressait. Comment l'avez-vous vécu ? Combien d'années passées dans le corps enseignant ? Et quelle philosophie vous en avez retiré ? Quelle expérience de vie ? Et comment est-ce que cela a continué de vous construire ?
Alors, pour ce qui concerne ma vie d'enseignant, c'était, je crois, pas loin d'une vingtaine d'années. À peu près à tous les étages du système éducatif. Collège, j'ai eu beaucoup de plaisir avec les jeunes collégiens, notamment. Lycée, IUFM, j'ai même donné des cours à l'université. Ce que j'en retire en une phrase, parce qu'il faudrait longtemps pour évoquer tout cela, à propos de l'enseignement de la poésie, j'en retire ceci, sans peser trop longuement mes mots, je pourrais dire que les enseignants, professeurs de français sont devenus, par la force des choses, un peu des médecins légistes de l'écriture poétique, parfaitement capables de faire l'anatomie du texte, mais souvent incapable d'en faire sentir la vibration, la charge émotionnelle dont nous parlions tout à l'heure. Alors, j'ai consacré un livre à ces questions, il s'intitule « Le prof et le poète à l'école de la poésie ». Ça, c'est une idée forte. Une deuxième idée, si vous le permettez, c'est qu'elle est positive. Pour moi, la poésie et la littérature, d'une manière générale, n'est pas un coffre contenant un trésor dont le professeur serait seul à détenir la clé et à connaître le maniement de la serrure. Il me semble que la littérature et la poésie, qui en est peut-être la quintessence, c'est plutôt un grand espace de liberté. Une grève, une plage, à marée basse, qui peut autoriser différents parcours. On ne peut pas dire tout et son contraire sur un poème, mais on peut vraiment en effectuer plusieurs lectures. C'est ce qui rend la poésie quasiment intemporelle. C'est que vraiment le texte possède un horizon d'attente qui est très important et qu'on ne relit pas aujourd'hui Saint-Amand ou Ronsard, que je citais tout à l'heure, comme on le lisait au XVIIIe siècle ou au XIXe. Ces textes ont d'autres choses à nous dire.
Donc une expression pour le poète, mais aussi une réception, une captation pour celui qui le reçoit et qui le nourrit, qui le construit aussi.
Mais il faut être deux pour écrire un poème.
Vous nous parliez tout à l'heure, Bruno Doucet, de votre passion pour le désert. Alors, est-ce que vous pourriez la décrypter un peu ? Ça vous est venu comment ? Est-ce que ça vous a été transmis, par une histoire familiale ? Ou comment l'avez-vous découverte, cette passion pour le désert ? Et pourquoi le désert ?
Alors, j'ai longtemps cru que cette passion était d'origine livresque. C'est-à-dire que les lectures d'adolescents, de jeunes hommes, celles de Frison Roche, plus tard de Leclésio, de Tahar Ben Jelloun, d'Edmond Jabès, je pourrais en citer beaucoup, avaient enflammé, nourri mon imagination d'une manière définitive. En réalité, j'ai compris bien plus tard que cela remontait à la petite enfance, lorsque mes grands-parents sortaient de temps en temps le dimanche après-midi, parce qu'il n'y avait pas la télévision, après le repas familial, ils sortaient d'un coffre des petites boîtes noires qu'ils ouvraient très minutieusement, dans laquelle se trouvaient des photographies sur plaques de verre, des vues stéréoscopiques, qu'on regardait dans un appareil binoculaire en bois, donc nous avions là vraiment presque du cinéma en relief, extraordinaire, et ces photographies avaient été prises par un bisaïeul, un arrière-arrière-grand-oncle, fils de petit paysan jurassien, parti faire une école militaire parce qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à faire dans la vie. J'imagine que son frère aîné avait eu la ferme, le cadet les bois, et lui le coup de pied aux fesses, pardonnez-moi, pour aller faire sa vie. Et cet homme, qui va devenir capitaine de l'armée française, s'engage dans une aventure coloniale, à la fois fascinante et effroyable. Et il part à la fin du XIXe siècle, dans les années 1993-94, avec la colonne Tidikelt, à la conquête du Grand Sud algérien. Le nord de l'Algérie est déjà colonisé, mais dans le sud, dans le monde Touareg, subsistent des poches de rébellion qu'il s'agit d'aller soumettre. Et cet homme, qui est chargé d'effectuer des relevés topographiques pour l'armée française, relevés qu'il transmet à l'état-major, avait une passion qui était celle de passion du regard, celle de la photographie. Et pendant les combats, lui photographie ce qu'il y a autour de lui. Les paysages qui le fascinent, mais aussi très vite les enfants, les mendiants, les femmes, les casbahs. Puis, à la fin de sa vie, de sa trop brève vie, il va se mettre à photographier les exactions de l'armée française, c'est-à-dire les combats. Et il meurt à l'âge de 30 ans, d'une balle qui le foudroie en plein cœur. Et ses effets personnels, son casque, son sabre, ses bottes, et une caisse en bois remplie de 200 photographies sur plaque de verre, un trésor inouï, sont renvoyés à la famille. Et mes arrière-grands-parents, donc au tout début du XXe siècle, se disent « mais c'est incroyable, avec ça, il faut cacher tout ça. L'armée va venir le réclamer, il faut le cacher, bon ». C'était après tout ce qu'il leur restait de ce membre de la famille. Ils enferment cela dans un coffre et c'est transmis à la génération suivante. Et la génération suivante commence à peine à sortir ces petites plaques qu'on me permet de regarder quand j'ai été très sage à l'école, ce qui n'était pas si fréquent. Et cela, alors, véritablement a enflammé mon imagination. D'une part parce que c'est extraordinaire, puis très vite au fond, ce que cela me dit, je crois maintenant que à mon âge, je m'en rends bien compte, c'est que le désert est devenu désir d'un ailleurs pour cet homme, des paysages, des êtres qui l'entourent, mais il prend conscience des horreurs de la colonisation. Et je crois que, il me semble que s'il fallait continuer la vie de cet homme, et peut-être un jour le ferai-je de manière narrative, romanesque, ce désert, ce désir du désert l'aurait conduit à la désertion. En tout cas, c'est ce que j'entends. Et comme je suis aussi, par ailleurs, le fils d'un homme qui, avant ma naissance, a fait la guerre d'Algérie, comment vous dire, je me sens assis de part et d'autre de la faille de la colonisation et de la décolonisation. C'est-à-dire, vraiment, je dis dans un texte écrit récemment que je me sens que l'épicentre de mon rapport à la langue française se situe par là, dans un passage dérobé entre deux rues de l'histoire.
C'est le photographe casqué qui a transmis le relais,
oui,
au poète
exactement.
Casqué.
Exactement, je le crois vraiment.
Avec la résistance.
Oui, oui, oui.
l'envie de paix, d'harmonie entre les hommes. Et dans un territoire, le désert, c'est quelque chose. Et si vous aviez à définir ce désert, parce que vous vous êtes rendu à plusieurs
au Niger. Le Niger, la Mauritanie, le Maroc.
Alors, votre impression, parce que vous l'aviez rêvé, vous l'aviez vu en photo, grâce à cet aïeul. Mais là, quand vous étiez sur place, quelle a été votre sensation et votre...
Le désert est un lieu qui vous désaccorde ou vous réaccorde avec vous-même. Il y a des gens qui ne le supportent pas. Vous savez, il y a des gens qui sont pris de panique devant ces immensités désertiques, qui ne peuvent pas supporter les conditions de vie dans cette solitude, dans ces immensités souvent au paysage effroyable, chaotique. C'est une vision du début ou de la fin du monde, le désert, parfois. Et puis, il y a des gens que cela réaccorde, qui se sentent en harmonie avec eux-mêmes, avec les autres et avec le monde qui les entoure. Alors moi, je suis plutôt clairement dans cette catégorie-là, ce rapport au paysage qui me fascine vraiment.
Eh bien, Bruno Doucet, imaginons ces paysages fascinants du désert en écoutant maintenant un chant de résistance touareg interprété par le collectif Désert Rebelle.
Le désert, moi, je le connais surtout à pied. Le désert en 4x4 ne m'intéresse pas du tout. Je l'ai fait, comme tout le monde, pour aller d'un point à un autre, mais marcher, ça, c'est formidable, parce que dans le désert, encore plus qu'ailleurs, le rythme y est lent, et c'est une manière de réenchanter son regard, son rapport au temps.
Parce que
vous êtes certain que les heures y passent plus lentement qu'à Paris ou dans nos vies professionnelles. Son rapport à l'espace, parce que vous découvrez les richesses inouïes d'un paysage que vous croyez au départ lunaire, mais la vie y est présente partout. Et puis, le rapport aux autres. Là, vraiment, pour le coup, c'est l'occasion de découverte, parfois d'une altérité assez radicale pour les Occidentaux, mais je crois que ça, c'est vraiment formidable.
Avec les poètes du désert, les poètes engagés, comme Rissa Rossé.
Oui, alors voilà, vous me menez là vers un territoire qui m'est cher. Rissa Rossé, qui est un poète du Niger, que j'ai rencontré d'une manière très particulière, puisque j'étais parti à l'époque en famille, avec mes enfants, faire une méharée au Niger. Puis il y avait un jeune guide, chamelier, qui était souvent à l'avant, avec lequel je discutais. Mais je sentais que la poésie affleurait en permanence dans sa manière de regarder les choses autour de lui, dans sa manière de chantonner, etc. Alors on a parlé de poésie, et il m'a dit qu'il était issu d'une famille de poètes. Et j'ai voulu en savoir davantage, et j'ai voulu rencontrer ces poètes en question. Et j'ai eu l'occasion, l'année suivante, d'aller frapper aux portes du désert dans la petite maison de Rissa Rossé, qui a une histoire formidable. Vous voulez que je vous la raconte?
Oui.
Rissa Rossé, c'est un poète qui est donc un poète touareg du Nord Niger, qui est né, je crois, en 1972, qui a eu la chance, je crois, la chance de grandir dans une famille dont le papa était guide, l'un des tout premiers guides touareg accueillant des Occidentaux, à l'époque moins des touristes que des scientifiques comme Théodore Monod qui voulait découvrir l'Aïr, le Ténéré ou le Djado qui est une région plus éloignée. Et donc Rissa a eu dans son adolescence, son enfance, des contacts avec les Occidentaux. Ça lui a donné envie de faire des études et il était au lycée d'Agadez en terminale lorsque la rébellion des années 90 a éclaté. Il s'est retrouvé pris dans toutes sortes de choses difficiles, notamment il a été arrêté, enfermé 18 ans, dans une prison sordide de Niamey, pour conspiration politique, alors qu'il n'a rien fait de plus que manifester à la sortie du lycée, comme le font nos lycéens ici. Et lorsqu'il en est ressorti, au lieu de reprendre les chemins de l'école, ce qui n'était d'ailleurs plus possible, il est parti dans la rébellion, aux côtés de Mano Dayak. Il s'en est sorti. Et il est devenu par la suite infirmier dans un village qui s'appelle Tchirozérine, qui se trouve au nord, à 70 km au nord d'Agadez, mais vraiment aux portes du désert. Alors c'est un poète formidable que j'ai eu l'occasion de découvrir sur place, mais qui est très esseulé, puisqu'autour de lui, souvent on ne lit pas le français, parce qu'il n'y a pas d'éditeur au Niger, que le dernier journaliste est en prison, qu'il n'y a ni bibliothèque, ni centre culturel, ni lieu où faire vivre l'expression poétique. Donc j'ai été probablement l'un de ses premiers lecteurs. Et j'ai eu le bonheur de publier des textes de Rissa Rosset dans des revues en France, la revue Conférence, Aujourd'hui Poème, mais également dans une anthologie récemment publiée chez Segers, dans le Livre des déserts que j'ai rédigé il y a quelques années. Voilà.
Je vous invite, je vous propose d'écouter justement un poème de Rissa Rosset.
Jeudi 16 avril 2008, au bout du petit matin. L'immensité du désastre. L'humanité retient son souffle. Des larmes sur les 5 continents. Les océans stagnent. Les fleuves suspendent leur cours. Tambours, choras et balafons ravalent leurs sons. Les rois des forêts, savanes et déserts retiennent leurs gestes, qui se figent. Et même les oiseaux au fond du ciel immobilisent leur envol. Les chiens se taisent. La tragédie des rois. La tempête sanglote. Lumumba tourne dans sa tombe. Un nègre. Un très grand nègre se retire. Un point ferme et dur, un point de fraternité et de dignité s'en va. Mais la révolte demeure aimée Césaire.
Bruno Doucet, actuellement directeur des éditions Segers, se trouve aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, devant les micros de Canal Academy. Bruno Doucet, il y a quelques instants, nous évoquions avec vous tout votre parcours d'enseignant. Quand avez-vous quitté l'enseignement? Et nous venons de quitter justement le poète résistant, poète casqué lui aussi nigérien, Rissa Rosset. De la résistance dans le désert, passons à la résistance de Pierre Segers. Quand avez-vous quitté l'enseignement et quand avez-vous fait la connaissance de cette personnalité, Pierre Segers?
Ah oui, ça c'est une question qui est pour moi très importante. D'abord les faits, j'ai quitté l'enseignement en 2003 lorsqu'on m'a proposé au début de l'année 2003 de prendre la direction des éditions Segers. Lorsque je l'ai fait, c'était avec un désir. Celui de rééditer le grand livre de Pierre Segers, La résistance et ses poètes. Livre publié en 1974, j'avais alors, puisque vous avez indiqué ma date de naissance, 13 ans. En vérité, je n'ai découvert que 2 ou 3 années plus tard ce livre majeur. Je l'ai lu, il a été un déclencheur, comme pour beaucoup de personnes d'ailleurs, hein, à la fois de ma conscience poétique et de ma conscience politique. Et ce livre avait quitté le fonds des éditions Robert Laffont et Segers, puisque les éditions Robert Laffont, depuis 1970, ont accueilli les éditions Segers. Mais en tout cas, ce livre était perdu. Il était comme perdu. Nous ne savions pas à l'époque qui en avait les droits, etc. Et j'ai fait pratiquement de la recherche de ce livre la condition sine qua non à mon embauche aux éditions Segers. Et avec le soutien indéfectible de Colette, l'épouse de Pierre, Pierre Segers est mort en 1987, hein, mais avec Colette, nous avons réédité ce livre. C'était une aventure formidable. C'est un livre de 800 pages et qui est vraiment, alors pour reprendre l'expression de Pierre Segers, le roman de Céro des temps les plus sombres de notre histoire. Mais une époque dans laquelle nous pourrions, par manque de vigilance, retomber, bien entendu. Donc cette réédition était pour moi vraiment quelque chose de très captivant.
Pour donner envie à nos auditeurs de se replonger dans la résistance et ses poètes ou de le découvrir quand il s'agit des nouvelles générations, je lirai « On y trouve à la fois le chant général d'une époque noyée de deuil et de sang, quand des Français se récitaient en secret des vers d'Aragon ou de Paul Éluard, et l'épopée d'une poignée de flamboyants, cette poignée qui racheta par son courage et son verbe ses souffrances aussi. » La grande génuflexion française de 1940 devant l'armée nazie.
Oui.
Un grand chant de résistance.
Absolument.
Alors vous, votre parcours, votre compagnonnage avec ce grand personnage qui a été Pierre Segers. Alors, parlez-nous de Pierre Segers.
Alors, Pierre Segers est né en 1906 dans une famille plus ou moins d'artistes. Son grand-père paternel sculptait le bois, le noyer, le chêne et réalisait des œuvres pour des églises européennes. Il y a à Tolède, par exemple, des pièces réalisées par le grand-père Segers. Le père de Pierre Segers va jouer aussi un rôle important. Lui sera passionné par la photographie puisqu'il inventera un papier photographique pour réaliser des vues aériennes. Ce sera à la fois un moment important de sa vie, puis en même temps un drame, parce que ne percevant aucun royalty sur sa propre découverte, il sera ruiné et l'histoire se terminera assez mal. Pierre Segers va passer son enfance du côté de Carpentras. Et puis l'aventure commence véritablement pour lui, en réalité, à Paris. Il a alors une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Il rencontre un homme, un architecte du livre, tout à fait exceptionnel, qu'il invitera bientôt chez lui, dans son atelier au Beau de Provence. Il s'agit de Louis Joux. Louis Joux, qui était à la fois imprimeur, typographe, qui fabriquait lui-même ses caractères, qui réalisait des livres exceptionnels, qui était aussi architecte, décorateur, écrivain, va avoir sur Pierre Segers, qui a perdu son père assez jeune, une influence absolument majeure. Cela conduit tout naturellement le jeune Segers à la poésie. Et dans les années 35-36, Pierre Segers écrit son premier recueil. Louis Joux lui conseille d'envoyer ce recueil intitulé « Bonne espérance ». Le titre est formidable. À l'un de ses amis, éditeur, Grasset. Et Grasset ne répond pas. Pierre Segers dira par la suite, comme la plupart des éditeurs, qui ne répondent jamais. Et Pierre Segers s'en offusque, enfin il s'en indigne, et il décide de publier lui-même son livre en créant une maison d'édition, les éditions de la Tour, parce qu'à Villeneuve-les-Avignon, où il habitait alors en 1938, il vivait au sommet d'une tour dans une chambre de bonne. Malheureusement, la guerre éclate, et le seul livre publié aux toutes jeunes éditions de la Tour, c'est Bonne espérance de Pierre Segers. Le reste, je l'ai un peu raconté tout à l'heure. C'est la création de la revue PC, Poète Casqué, puis de la revue Poésie, qui sera millésimée, Poésie 40, 41, 42, 43. Et puis, le 10 mai 1944, sur les presses de l'imprimerie du Salut Public à Lyon, paraît le premier livre des éditions Segers. C'est le premier livre de la collection Poète d'aujourd'hui, consacré à Paul Éluard. Paul Éluard, qui est un poète qui a moins de 50 ans, mais qui est déjà très connu en France, hein. Et commence une aventure qui sera extraordinaire.
Mais qu'est-ce que l'on veut dire lorsque l'on parle du premier Segers, vrai Segers, en 1944, ce petit format qui tenait dans la poche?
Ah oui, parce que Pierre Segers publie donc son premier livre sous le nom des éditions Segers. Auparavant, c'était des revues. Ce livre a un format carré, on dira par la suite le petit Segers, parce que c'est un livre au format de poche. Et c'est tellement vrai que par la suite, bien des années plus tard, les tailleurs parisiens inventeront la fameuse poche Segers dans laquelle on peut glisser un livre de ce format.
Un ouvrage de poésie dans la poche.
Exactement, exactement.
Alors, vous dites, eh oui, en ces temps-là, la poésie influait sur la vie. Avec un peu de nostalgie, le dites-vous. Mais alors aujourd'hui, Bruno Doucet, qu'en est-il ? Qu'en est-il à l'heure de la mondialisation, à l'heure du rock, du rap, d'Internet ? Poésie obsolète, poésie cercle fermé, où en est la poésie ?
Alors, le rap est proche de la poésie. Le slam l'est encore davantage. Internet est un formidable moyen de dialoguer avec les cultures du monde. Donc, tous ces éléments que vous avez cités, pour moi, ne sont pas négatifs. Ce qui a probablement été négatif, c'est la manière dont la poésie, et si Pierre Seghers était là à ma place, il le dirait bien mieux que moi, mais il dirait la même chose, je crois, c'est la manière dont la poésie s'est éloignée de ses forces vives, de ses racines populaires. En France, dans les frontières un peu étroites de notre hexagone, bien des poètes, à partir des années 70, se sont détournés du lyrisme, de l'engagement, de la vie militante, de ce que on appelait autrefois la vie unanime, des problématiques sociétales, des questions sociales, etc., pour, je vais être un tout petit peu caricatural, mais s'enfermer dans une poésie de laboratoire, souvent très brillante, très intelligente, mais hélas, trop fréquemment réservée à un cercle de très très restreint d'initiés. Pierre Seghers, avant sa disparition, était en lutte contre cela, et je le suis aussi. Simplement, aujourd'hui, le vent est en train de tourner. Au début de l'émission, vous parliez du printemps des poètes et de ce formidable mouvement qui l'accompagne. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, la poésie est un champ nécessaire à l'homme. La poésie n'a jamais été en France aussi probante, aussi efficace, aussi utile que dans les temps de détresse. Et je crois qu'hélas, le monde dans lequel nous vivons lui réserve probablement de beaux jours.
La poésie, plus que de l'art, Bruno Doucet, un engagement humaniste, une mission pour celui qui justement sait écrire et sait communiquer son expression via la poésie.
Oui, alors, lorsque vous dites plus que l'art, moi je pense que la poésie est le poétique est la quintessence de l'art. C'est le cœur de toute forme de démarche artistique. Toute démarche artistique est par essence poétique, dans la mesure où elle permet de dépasser le caractère prosaïque de l'existence. Je parlais tout à l'heure de capacité de réenchantement du monde, je crois que c'est cela. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme le pensaient les poètes romantiques, que les poètes peuvent être les législateurs du monde. C'est une absurdité, ils ne l'ont jamais été, ils ne le seront jamais, ce n'est sûrement pas souhaitable. Mais ils ont la possibilité de mettre du baume au cœur de la détresse humaine. C'est incontestable. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont un effort à faire pour se réapproprier le monde qu'ils ont laissé filer pendant des années. Je parle des poètes français. Vous savez, il y a des ressources inouïes dans la francophonie. Et puis, je ne parle même pas des poésies étrangères, mais il y a véritablement une vitalité. Ce que je veux dire, pour être tout à fait clair, c'est que la France et Paris ne sont pas le centre de la poésie.
Alors c'est ce dont vous faites la magnifique démonstration dans Poésie de langue française, un ouvrage, une anthologie à laquelle Canal Academy a prêté ses micros
et
son travail pour justement faire vibrer ces 144 poètes d'aujourd'hui autour du monde. Alors racontez-nous l'histoire de cette anthologie qui est présentée donc par Stéphane Bataillon, Sylvestre Clancier et vous-même, Bruno Doucet, qui êtes à la direction des éditions Seghers.
Voilà, alors écoutez, c'est un livre évidemment comme tout livre qui a une histoire. Cette histoire, son acte de naissance est paradoxalement lié à la disparition d'Aimé Césaire. Le jour de la mort de Césaire, j'étais en vacances dans le Vercors. Le téléphone n'a pas cessé de sonner. Des tas d'amis m'ont appelé en disant « Césaire est mort ». Bon, c'est René Depestre, qui est l'un de mes grands amis, qui est un poète qui a plus de 80 ans, qui vit dans le sud de la France, poète haïtien, m'a appelé. Il était évidemment très, très touché par cela. Et tous me disaient « Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Alors, il y a bien aux éditions Seghers un livre consacré à Césaire que j'aurais pu rééditer. Il était possible aussi de demander des témoignages sur Césaire, mais j'ai très vite compris que d'autres éditeurs allaient le faire. Et j'ai plutôt essayé d'imaginer, avec mes amis Stéphane Bataillon et Sylvestre Clancier, qui dirigent le Pen Club France, mais aussi l'association La Nouvelle Pléiade, j'ai plutôt imaginé de réunir autour de la dépouille de Césaire ce que Senghor aurait appelé une ceinture de main bien fraternelle, et de demander à plusieurs dizaines de poètes vivants de langue française, mais de tous les horizons, de nous envoyer deux textes. Un poème inédit et un texte d'une page de réflexion sur ce qu'est la poésie, sur le rôle qu'elle peut jouer aujourd'hui, sur le rapport que ces poètes des antipodes, parfois, entretiennent avec la langue française. Vous savez que la francophonie, c'est un immense débat, un vaste débat, que la francophonie est aujourd'hui souvent malmenée, d'une part parce que le français, on a le sentiment que le français recule, ou il ne peut pas lutter contre la prolifération envahissante de la langue britannique, etc. Et pourtant, il y a là des poches de résistance exceptionnelles. Certains poètes venant de pays non francophones font le choix d'écrire dans notre langue. Donc c'est à eux tous que nous nous sommes adressés. Très franchement, alors je m'étais donné comme objectif, un peu fou, de publier ce livre 4 mois plus tard, disons début octobre, pour le sommet de la francophonie de Québec, avec le désir d'offrir ce livre au moment de la francophonie, et puis surtout de célébrer le 60e anniversaire d'une anthologie magistrale, l'anthologie de la poésie nègre et malgache du grand poète sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui avait été préfacée en 1948 par Jean-Paul Sartre. Un texte mythique intitulé « Orphée noir » qui avait pratiquement vraiment fondé le concept de négritude. Bon, c'était des enjeux un peu... Bon, c'était un défi formidable. Mais en 4 mois, vous savez, il faut déjà presque 4 mois pour fabriquer les livres. Alors c'était une folie et je me suis dit, mon Dieu, si nous réussissons à réunir 80 poètes, c'est mon horizon, c'est mon espérance, 80 poètes, nous ferons, aussi bien que Jules Verne, un tour du monde en 80 voix. Nous avons réussi à en rassembler 144 et il y a là des richesses absolument insoupçonnées.
Bruno Doucet, pourriez-vous maintenant... pour les auditeurs de Canal Académie, prendre vous-même votre place à l'intérieur de cette ceinture de main fraternelle et lire le poème, votre poème qui y figure.
Bien volontiers. Je te regarde vivre. Je te regarde vivre comme le champ se nourrit de la sève des arbres, comme un puits qui questionne l'eau captive des roches. Je te regarde vivre comme un grand voilier blanc qui cherche les deux hémisphères de ton Amérique. Comme un feu dans la nuit, comme un homme incendié dans l'embrasure de tes rêves. Je te regarde vivre comme ce grain de sable qui roule dans la dune le champ de la planète. Je te regarde vivre comme on guette une voix quand le silence oppresse, comme l'abeille s'affole à l'approche des lampes quand le vent de l'été moissonne un paysage de forêts en pleurs. Je te regarde vivre comme un bohémien dont le violon égaye la noce des villages, comme un verre brisé sur le perron d'un soir, comme une promenade que des amants vieillis se promettent encore. Je te regarde vivre, et je prends peu à peu la mesure du temps, des pas qui vont et viennent dans la grande maison de tes batailles, dans le clos où l'horloge de ta vie bat son plein, sans que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Je te regarde vivre, et nous nous retrouvons dans ces cabanes sans histoire où fume le bon temps de la douceur humaine. Je te regarde vivre et dormir près de moi dans le petit matin quand la brume s'enroule aux pentes des forêts.
Bruno Doucet, le vœu, le projet du directeur des éditions Segers que vous êtes aujourd'hui?
Écoutez, c'est que l'aventure puisse continuer parce que nos contemporains en ont besoin. Je pense que le rôle des éditions Segers aujourd'hui n'est pas de diviser un monde qui l'est déjà beaucoup trop, mais au contraire de rassembler, de fédérer les forces vives, mais assez dangereusement dispersées de la poésie contemporaine. Vous savez, en France, pour ne parler que de ce qui se passe ici, mais ce qui se passe ailleurs dans le monde est assez significatif aussi, l'édition de poésie est fragmentée, c'est incroyable. Il y a un ou deux éditeurs qui ont pignon sur rue, qui ont un système de distribution, de diffusion des livres, qui ont donc des facilités de ce point de vue. Mais il y a autour de ces quelques maisons un nombre inimaginable, plus de 100, 150 toutes petites maisons d'édition qui sont tenues par des hommes et des femmes qui sont vraiment, alors pour le coup, entrés en résistance et qui travaillent le soir après leurs heures de travail, qui publient leurs livres chez eux, qui les distribuent en les mettant dans le coffre de leur voiture et qui souvent, bien souvent, utilisent leurs deniers personnels pour faire vivre, je dirais, voilà, un pan de vie fraternelle et de conscience poétique. Donc, des dangers bien réels pèsent sur la place de la poésie dans notre monde, sur son avenir, sur son identité. Donc je pense que le rôle des éditions Seguer, c'est de tenter de fédérer avec d'autres, hein, bien sûr, ces forces vives et dangereusement dispersées, et puis aussi de renouer avec ces racines un peu populaires de la poésie. Je veux faire des anthologies qui soient accessibles à tous. C'est un rêve, mais je pense que vraiment ce rêve en vaut la peine.
Cette anthologie est accompagnée d'un CD,
oui,
accessible à tous.
Et absolument.
Et qui réunit donc des voix des poètes, oui, du monde entier.
Oui, oui.
Donc on peut dire tous, nous nous retrouverons au Printemps des Poètes, dont vous nous rappelez les dates.
Eh bien, le Printemps des Poètes commence le 2 mars. Il se terminera le 15 officiellement, mais en vérité, les choses continuent bien au-delà de la fin de ce 11e Printemps des Poètes.
Bruno Doucet, merci d'avoir partagé ces moments de réflexion autour de la poésie devant les micros de Canal Académie.
Merci à vous.
Mais Bruno Doucet, nous ne vous quittons pas tout de suite puisque les auditeurs de Canal Académie vont pouvoir écouter 5 de vos poésies. Ces poésies se trouvent éditées sur un CD intitulé « Embrasure », coédité par les éditions Sous la Lime et le Beau Label. Ce CD comporte 28 de vos poèmes, Bruno Doucet, des poèmes extraits de votre recueil « Poèmes au secret » qui, lui, avait été édité par le Nouvel Athanor. C'est dans votre voix que les auditeurs de Canal Académie vont pouvoir écouter ces 5 poésies. « Embrasure » par Bruno Doucet.
S'il existe un pays plus étrange et plus fort que les mots de ta vie, un pays contenu dans le phrasé des nuits, dans l'âpre solitude du phrasé de tes nuits. S'il existe un pays où tes pas nous entraînent à grands pas, retenus, reconnus, redoutés, une terre plus intense que l'intense clarté. S'il existe un pays savamment griffonné des lignes de la main à la courbe des jours, un espace inventé à la mesure de l'émoi, s'il en est des tensions, de la joie des brisures, des lentes accalmies aux livrées océanes, s'il en est de l'ivresse accordée comme de toutes choses en ce monde, flétrie, pillée, rasée, lentement dévasté par l'érosion des jours, j'irai mon accordée secrète et décisive jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à l'inextinguible souffle du phrasé de nos nuits.
Aimer comme une palme pour consoler la mer. Je le revois à Fort-de-France sur son fauteuil en osier. Volcan noir pour féconder la terre, toute la terre. Palmier debout pour bercer la mer. Cette parole douce et décidée défie aux chaînes des cupides et longues traversées. Je te fais île, dit-il lancinante lumière. Pétri de ma chair, nourri de ma braise, liane dure et tendre, pour retenir l'ombre des naufrages.
Je t'ai prise comme on prend la mer pour la première fois et que la barque échoue sur le sable mouillé. Puis des vagues, une houle est venue qui nous a emportés et je t'ai prise encore dans la montée des eaux.
Je t'ai prise comme on prenait le large, dans les années de solitude, quand le ciel ordonnait les moissons de la mer. Oh mon amour, la vie s'en va, la vie revient, elle est superbe, comme une fête sur le fleuve, comme aux dérives inondées. Je t'ai prise dans l'embrasure des lointains, ta bouche couronnant ma voilure, ma gouverne fendant les flots de ton passage. Je t'ai prise comme on prend l'air, lorsque la nuit étouffe nos rêves d'évasion et qu'une simple brise innocente le jour. Je te prendrai encore contre vents et marées, et l'eau de ton visage à mon souffle mêlé laissera sur la terre de nos corps étendus ce goût de sève qui est le sel de la vie. Ilius et Fante sous la porte. Ces passages soudains de lumière nocturne. Il y eut la longue attente de l'enfant qui écoute et qui ne peut dormir. La nuit qui te déchire et qui n'en finit pas de ravager ta nuit. D'un coup, le cercle qui se brise. Il y eut ces espaces libérés de l'espace où les formes s'inversent dans le vœu de l'absence. On dirait le lointain des mimosas en fleurs. Un peu de brume sur les roches, un peu de suave fraîcheur, les sentiers odorants où vos pas se rejoignent. On dirait les effluves de la terre au matin, des rêves de printemps et d'arrière-pays. On dirait le léger et doux frémissement de la plainte naissante qu'une parole apaise. On dirait un regard étonné d'être là quand le monde s'éveille, peut-être seulement le chant d'une présence. ...